Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Gouin.
Le meilleur du Super Moscato Show avec Adrien. Restez bien avec nous parce que dans 20 minutes, Clarisse Agbegnénou va nous présenter ses deux prochaines saisons olympiques. Et à chaque fois,
tout est programmé.
À chaque fois, on se régale avec Clarisse. C'est
tout,
fou, hein.
Tout est programmé.
Elle veut casser la gueule à tout le monde et nous, on aime ça.
Après une deuxième grossesse, elle vise l'or à
la championne de judo, bien sûr.
JO.
Mais tout de suite, Tony Parker, coach en NBA. Est-ce que vous y croyez?
La Fédération française de basket vous propose le DEPB.
Parker à 3 points!
Pipi Parker.
Diplôme d'entraîneur professionnel de basket.
Petit Pipi Parker national, ce sont des ailes, pourquoi pas.
Cette formation vous permettra d'entraîner et coacher une équipe professionnelle de basket.
Il y a eu deux sportifs dans l'histoire qui ont eu deux carrières pro. Jordan, baseball et basket. Brun, basket et tennis.
Appréhender les exigences du très haut niveau.
Tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand.
Piloter et concevoir un projet de haute performance sportive.
Pivot, il était.
Pivot.
Bernard, c'était Bernard Pivot.
Vous aurez notamment l'opportunité de vivre l'aventure en immersion.
Sur la question juste avant le truc qui partait aux États-Unis, WNBA.
FFBB.com. À très bientôt.
C'est que oui, dunk au basket. Il a des super qualités athlétiques.
Ah, ça, c'est fort.
Ah, il fait des Tolisso.
Moscato, il va te le régler le problème.
Alors c'est le Super Moscato Show et on parle basket. C'est vrai qu'on est mardi, donc c'est le jour de basket time, on le précise, mais vous êtes bien dans le Super Moscato Show. Basket time est en ligne, spécial Euro 2025. D'ailleurs nous accueillons Félix Gabory qu'on retrouve dans le podcast. Salut Félix.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
On va parler de Tony Parker qui veut revenir sur le terrain. L'icône du basket français rêve d'entraîner l'équipe de France et une franchise NBA. Il part de zéro et les places sont chères, mais pourquoi ne pas lui imaginer un destin à la Zidane? Tipeee entraîneur, est-ce que vous y croyez? Vincent Moscato règle le problème. S'il daigne participer au débat de son émission,
parce que
c'est plutôt d'humeur.
Le mec a miaulé quand même, il n'y a aucun respect.
Un très bon miaou.
Un très bon miaou.
Ah oui.
Alors, pour débattre avec nous, il y a le 32-16.
C'est dommage, Jean-Fred.
Félix, c'est une interview dans l'équipe la semaine dernière, hein, qui a été à l'origine de cette annonce. Quelle est l'ambition exacte de Tipeee?
Ouais, Tipeee commence visiblement à s'ennuyer. Il veut se rapprocher du parquet. Voici ce qu'il a dit dans l'équipe il y a quelques jours. Je cite, j'ai envie de pivoter, de faire autre chose. J'ai envie de changer de carrière. Le terrain m'a manqué, je pense que c'est le bon timing pour moi. Cela fait 6 ans que je suis en retraite sportive et je le ressens en moi. Alors après avoir discuté avec Zidane et Thierry Henry, deux de ses copains devenus entraîneurs après leur carrière, il s'est décidé à passer son diplôme d'État cette année. Comme Vincent il y a quelques temps. Il s'est fixé un objectif, avoir ce diplôme en mai prochain, pour ensuite commencer sa nouvelle carrière de coach avec, à terme, un poste en NBA comme rêve absolu.
Alors ça c'est la suite, l'avenir possible, mais si on se plonge un peu dans sa carrière et son après-carrière, il n'y a absolument rien d'une reconversion pour être entraîneur. Hein.
Ah non, pas vraiment, parce que jusqu'ici, on connaissait plutôt Tipeee, le businessman. Ça fait 11 ans qu'il est président et propriétaire de l'ASVEL. Il a permis au club d'intégrer la prestigieuse Euroleague et de remporter 4 titres de champion de France, même si les finances sont un peu dans le rouge en ce moment. En tant qu'entrepreneur, il a également investi dans une station de ski à Villard-de-Lans ou dans un haras de chevaux de course dans le Calvados. Bref, autant de business qu'il devra gérer de bien plus loin s'il devient entraîneur.
Alors, est-ce que déjà, première question, est-ce qu'on peut devenir entraîneur comme ça, 6 ans après sa retraite, sans y avoir vraiment pensé avant, Vincent? Ça, c'est possible non, comme parcours?
C'est possible qu'il n'y ait pas pensé. Il a pris d'autres trucs pour se reculer. C'est un mec qui était investi dans le jeu. C'est un meneur de jeu. Un meneur de jeu, il a gagné 4 fois le championnat américain, c'est ça, hein?
Oui.
La NBA, il a gagné 4 fois. C'est un mec qui s'est investi dans le jeu. C'était quand même avec le coiffeur de l'hôpital,
le coach Popovic.
Écoute-moi, c'était son relais sur le terrain. Donc automatiquement, c'est comme un demi-mêlé, c'est comme Pierre Mignoni. C'est des mecs qui sont dans le jeu tout le temps, qui sont passionnés. Tu peux pas être meneur de jeu si tu comprends rien. C'est pas possible. C'est impossible. Enfin, je le crois, quoi. C'est comme si tu me dis, t'es demi-ouverture ou demi-mêlé et tu comprends que dalle dans le jeu. C'est pas possible. Regarde tous les gosses qui sont entraîneurs. Un mec comme Deschamps, qui est techniquement peut-être pas le meilleur, mais qui était complètement investi dans le jeu, dans la tactique, dans la réflexion. Tony Parker avait du talent. C'était pas le mec le plus physique qu'il y ait eu à ce poste. Là, je veux dire, il y a des mecs qui ont beaucoup plus de talent que lui. Tu vois, il y a des meneurs de jeu qui sont doués naturellement. Lui, il a travaillé et tout. Bien sûr que c'était une suite logique. Il a pris de l'expérience, il a pris du recul. Il a fait quelques petites affaires. Il a mené son club 4 fois champion de France. Il a mené en Ligue des Champions. Écoute-moi, il passe son brevet d'état. Alors après, attention. Après, parce que Tony, quand même, il est un peu raide, quoi. Tu vois, je veux dire, il joue un peu.
Il est impitoyable.
C'est surtout des sports collectifs, mais qui, quand même, ne le sont pas trop collectifs. Qui joue un peu. Là, il faut savoir amener les mecs, les encourager, être pédagogue. C'est autre chose. C'est pas un éducateur non plus, mais ça demande une autre patience, de mettre ton jeu, de pas être sûr de toi. Je veux te dire, il y a rien de pire d'avoir de l'assurance. Il y a rien de pire que ça. Je veux te dire, ça te met en faiblesse d'avoir trop d'assurance. Il faut être d'accord avec ce que t'as envie de faire, mais il faut faire attention. Donc ça demande une démarche intellectuelle. Où il va bosser son brevet d'état. Mais son brevet d'état, ça va lui amener un diplôme que ça sert à que dalle. C'est par rapport à ce qu'il a eu lui, c'est sur le terrain qu'il va lui amener. Et donc il va commencer peut-être à avoir la patience de peut-être commencer, s'il veut faire de la NBA, numéro 2, numéro 3, de grimper comme a fait le Zizou. Est-ce que là il aura cette capacité intellectuelle, cette espèce d'humilité pour le faire? Ben c'est là, on attend de voir.
Tu crois plutôt quand même.
Moi j'y crois. Le bagage technique de ce mec est énorme, bien entendu. Mais après, il va falloir qu'il se façonne peut-être différemment qu'un propriétaire de club comme il était, ou qu'un mec qui a monté une station de ski là, ou je sais pas trop quoi là.
Voilà. Ou des chevaux.
Ok, Stephen.
Les chevaux.
Je crois que ton ancien coéquipier Tony Parker.
Ah, t'as joué avec lui?
Grand coach.
C'est vrai, t'as joué avec lui?
Oui, j'ai joué. Enfin, il a surtout joué avec moi, mais.
Oui, c'est lui qui a joué. Ben oui,
c'est
ben alors.
Classe, quand même.
Bien sûr, t'as raison.
Il m'a pas fait beaucoup de passes. Hein.
Ah ouais?
Non, pas trop. Après, j'étais sur le banc, lui.
Il calculait pas trop?
Non. Même s'il avait voulu, il pouvait pas.
Il était pas fou au point de faire des passes sur les mecs qui sont sur le banc, quand même.
Il m'a régalé. Sur mes peu de passages en équipe de France, il a été exceptionnel. Maintenant, pour ce défi qui est quand même irréel, parce que c'est un garçon qui est sorti du basket en lui-même, en tant qu'acteur majeur du basket, je te parle de technique et tactique.
Il est bon tactiquement, sans tactique.
Moi, je pense qu'il est
bon. Il a une vision du basket.
C'est un mec, il a été meneur de jeu des Spurs, c'est meneur de jeu. Quand t'es meneur de jeu, tu décides des systèmes en fonction, tu regardes les match-up, système
quoi, entraîneur
de jeu. T'as un cerveau hors norme quand t'es meneur de jeu d'une équipe, surtout.
C'est comme talonneur.
Voilà, exactement.
Mais serveur hors norme pour le milieu du basket aussi.
Bien sûr, Vincent, mais qui reste quand même supérieur au milieu du rugby. Mais tout ça pour vous dire que le diplôme, il le fait parce qu'il a envie aussi d'avoir une session pendant un an et d'apprendre les bases du métier. D'ailleurs, il va côtoyer Vincent Collet, Popovic pour apprendre tout ça, parce que c'est pas que de la tactique en termes de basket. Aujourd'hui, il y a des gestions d'ego, des gestions de vestiaire, des temps de jeu à répartir. Il y a beaucoup de psychologie à faire, mais il y a pas besoin de diplôme en NBA pour coacher. Il y a beaucoup de garçons qui ont terminé leur carrière, je pense à des Steve Nash pour les joueurs plus connus, qui sont passés coach alors qu'ils n'ont jamais été assistants avant. Il a cette renommée aux États-Unis quand t'es 4 fois champion NBA, mais encore plus quand t'es Hall of Famer, parce que Tony Parker est rentré Hall of Fame du basket américain. Il a cette aura et surtout la disposition aujourd'hui des bancs NBA. T'as pas mal de meneurs de jeu qui sont entraîneurs, qui ont été des joueurs moins forts que Tony Parker, mais il y a une structure en termes d'assistants. Ils ont une armée mexicaine autour. T'as des assistants qui sont parfois plus compétents que les head coach. Ils sont épaulés comme jamais. Il a cette famille, les Spurs, qui sont souvent très ouverts à garder les mecs qui ont passé dans cette franchise-là, à reprendre des mecs qui sont passés dans cette franchise-là, et pourquoi pas.
Et donc, tu penses qu'aujourd'hui une franchise pourrait offrir une possibilité à Tipeee comme Steve Nash ou Jason Kidd?
Je pense. Numéro 1
d'entrée.
Ouais, pourquoi pas. Steve Nash est passé numéro 1 d'entrée. Il y a des mecs, Jason Kidd est passé numéro 1 d'entrée.
Et sur ce que dit Vincent sur le côté raide, j'allais pas dire humain, ça veut rien dire, mais le côté emporter les mecs.
Je disais dans Basket Time ce matin, que vous pouvez écouter podcast, oui. Il a côtoyé peut-être ce qui se fait de plus dur. Greg Popovich a été parfois immonde avec Tony Parker. Il l'a fait chialer, il a été très dur. Mais au-delà de ça, en dehors du terrain, il y avait ce côté humain. Tipeee peut être très dur. Dans la vie, je l'ai vu en parler des fois, très dur.
Il a mal parlé à Pierrot un jour.
Il a mal parlé à Pierrot d'ailleurs, j'en reparlerai.
Ça m'a endurci.
Mais rappelez-vous, il faut avoir ce détachement de quand lui était joueur, il faut savoir accepter que dans ton effectif, tu as des joueurs qui sont moins forts que toi et être capable d'accepter que ces mecs-là fassent des erreurs. Ce que Thierry Henry a eu du mal à Monaco et ensuite il a progressé là-dessus.
C'est parfois c'est un peu le même profil, non ?
Oui, un petit peu, mais parfois comprendre que ces mecs-là sont moins forts que toi et avoir cette tolérance-là. Mais il faut être capable de gérer des égos. Et c'est pour moi la partie tactique, la partie basket. J'ai pas de doute là-dessus. Le plus compliqué en NBA ou même en Europe, c'est la gestion des égos, la gestion des temps de jeu, la gestion du vestiaire.
Et la politique.
C'est ça qui est dur.
Et la politique. Attention, faut bien manœuvrer sa barque.
Tipeee entraîneur, est-ce que vous y croyez ? Le 32-16, on vous attend. Eric, ton avis ?
Écoute, moi, le seul problème, bien sûr, qui peut être entraîneur, et je ne vais pas répéter tout ce que mes copains ont dit, il n'y a pas de souci. Sauf que, puisque quelqu'un parlait de Didier Deschamps, quelqu'un parlait de Steve Nash, ou de. C'est Steve qui
avait ça. Alors après, tiens vraiment, on peut mettre des sons de Didier Deschamps sur les illustrations de Tony Parker maintenant.
Non, c'est Vincent qui a parlé de. C'est Vincent qui a parlé de Dédé. Sauf que ces mecs-là, ils ont enchaîné après leur carrière.
Direct.
Ils ont enchaîné pendant leur, après leur carrière. Soit ils ont passé les diplômes, soit ils ont entraîné de suite, soit ils se sont mis.
Zizou a attendu un peu.
Zizou a attendu un peu, mais pas. Non, mais
il passe le diplôme en 2012 par là.
Oui, sauf que il se met de suite dans le circuit du tu sais l'école de management là qu'il y a là où
les Limoges allaient
derrière. Et après il a passé ses diplômes d'entraîneur. Après il est devenu entraîneur de la réserve au Real. Après adjoint. Après ou l'inverse, je sais plus dans quel sens. Il a fait ça. En tout cas, il était dedans. Là, moi, ce qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que normalement, quand tu veux devenir entraîneur, et bien sûr que il peut être entraîneur, et bien sûr que n'importe quel joueur, parce que tu dis, il était meneur de jeu, il était plus.
Mais oui,
il y a des talonneurs qui sont devenus de très grands entraîneurs.
Mais parce que dans le basket, Eric, il y a très peu. Alors, il y a toujours des exceptions de pivots qui ont été des grands entraîneurs. En général, c'est des joueurs extérieurs.
Ok. Bon, en tout cas, sauf que pour moi, quand tu t'es trop longtemps arrêté. Et que tu n'as pas montré un intérêt particulier pour ce métier-là, est-ce que tu reviens pour les bonnes raisons? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que c'est vraiment de la passion? Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ce métier d'entraîneur qui est en lui depuis toujours alors qu'il nous l'a jamais montré? Tu vois, moi c'est ça, c'est le seul truc. C'est pas pour les bonnes raisons, tu as moins de chances de réussir. C'est tout ce que je. Après, Tony Parker, il peut être un grand entraîneur, bien sûr.
Quand il était dans ce club, est-ce que tu penses qu'il était pas au contact des joueurs, à quelques prises, est-ce qu'il était pas, il était pas vraiment en dehors du basket, est-ce qu'il était, quand même sur le terrain, je veux te dire, on l'a souvent vu ça, des mecs quand même qui prenaient des rôles comme dirigeant, il faisait mille trucs, il était
prêt, il faisait mille trucs en dehors totalement du basket.
Parce que ça veut dire qu'être entraîneur, Vincent, c'est 24h/24, 7 jours sur 7.
C'est pire que jouer quasiment toute l'année.
T'arrives à 6h du matin, tu pars le soir à 8h,
9h. Ça veut dire qu'il croit sur beaucoup de choses.
Ouais, mais ça lui manque ça, peut-être.
Oui, peut-être.
La routine qu'il a vue pendant 25 ans de sa carrière, peut-être que là,
c'est vrai qu'il a traîné.
Ça lui manque.
Oui, c'est vrai que le seul hic,
le vestiaire, les mecs.
Le seul hic, c'est que on comprend pas trop qu'il n'ait pas fait ça d'entrée de jeu, quoi. Qu'il n'ait pas passé ses diplômes. Parce que souvent, comme tu dis, les mecs qui veulent être entraînés, ils sont pris là-dedans dans la tronche.
Ils fonctionnent comme ça aussi, hein. Ils se donnent un but,
président de l'ASVEL très tôt, lorsqu'il était encore joueur, en fait. C'est pour ça que quand il prend sa retraite, il se consacre à temps plein à la présidence.
Oui, non. Puis après, il faut savoir faire ce que tu fais. Parce qu'après, tu fais des investissements, c'est bien beau d'arriver avec de l'oseille. Mais quand t'as de l'oseille, il faut bien savoir un truc dans le milieu des affaires, c'est que les autres veulent te la prendre. T'as pas souvent les tenants et les aboutissants. Et comme tu sors avec un ego du sport surdimensionné, c'est là où tu fais les conneries avec l'oseille. Et attention, peut-être qu'il a besoin de se refaire.
Un magasin de vêtements à vue de l'opéra, par exemple, c'est pas forcément une bonne idée, par exemple. Vincent, il a envie d'en découdre aujourd'hui, donc j'y vais là. Des fois, il faut le laisser tranquille.
Non, mais c'est vrai. Mais tu as raison. Écoute-moi, tu as raison, Pierrot. Pierrot, il faut savoir faire ce que tu sais faire. Et c'est vrai que des fois, t'as tendance, les mecs, qui te flattent comme t'es un ancien sportif, une vedette, et tout, ils te disent, bah, investis là. Alors, nous, à notre niveau, c'est un PMU, un bar, c'est pas les affaires que fait Tony Parker. Mais à la sortie.
Denis, il a investi dans les drones.
Oui.
Ah, c'est lui qui fait tous les spectacles de drones maintenant. Tony Parker.
Est-ce que vous y croyez?
Faut
faire attention à ça.
Comprends l'hélicoptère avec l'hélice.
Seb nous appelle au 32-16. Salut Seb.
Salut les types, salut Vincent.
Saint-Maur comment des Fossés, Val-de-Marne.
Pierrot, c'est un peu super Seb.
Super sub, Vincent, c'est pas ce que ça veut dire.
Mais je savais pas ce que ça voulait dire.
Alors, on reviendra sur cette séquence plus tard. Pour l'instant, on reste sur Tipeee.
Il a compris Super Tub.
Avec Seb.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Seb?
La seule chose qui m'a étonné, c'est qu'il n'ait pas fait plus tôt, parce que je trouve que c'était, de par son parcours et la personne qu'on a suivie à travers les médias, c'était vraiment le cheminement qui allait aboutir à ça. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris, et c'est un costume qui va bien lui aller, je trouve. Et cette petite escapade de 6 ans, homme d'affaires, président de l'ASVEL et tout, ça va au contraire peut-être même lui servir pour ce côté politique qu'il va devoir gérer en tant que coach. Et tu t'en m'étonnes pas du tout. Voilà.
Aucun doute. Après l'aspect qu'a évoqué tout à l'heure Steve sur sa dureté parfois avec ses coéquipiers, on la connaît. Donc je pense qu'il sera un coach de ce type-là.
Oui, c'est pas grave.
Non mais il faut savoir le gérer quand même parce que
tu es
toujours à la limite du point de non-retour. C'est-à-dire quand t'es trop dur tout le temps, il y en a des coachs Vahid Halilhodžić par exemple. Parfois, c'était trop. Même si c'est un mec qui peut être très entraînant, qui est un vrai chef.
Fatigué ton vestiaire.
Il a fatigué beaucoup de vestiaires. C'est l'exemple qui vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres des coachs comme ça. Ça va être un vrai effort pour lui parce qu'il est intransigeant. Je pense que Tony Parker est une personne qui, dans son boulot, ne supporte pas la médiocrité.
Soit.
Mais là, quand tu es avec quelqu'un d'autre dont les capacités sont pas les tiennes,
il faut avoir un peu de tolérance.
Il faut avoir cette psychologie-là.
Mais ça, Pierrot, Zizou lui a dit au téléphone.
Titi
aussi.
Titi aussi.
Vincent, est-ce que c'est vraiment intéressant, vous pensez, quand il s'appelle ces gens-là? De quoi il parle?
Moi, je préfère pas savoir, jamais en
entendre. Mais il parle concrètement,
il parle comme nous, qu'est-ce que tu crois, lui? Ouais, il parle comme nous, quatre
dans. Non, mais il donne quoi comme conseil, Zizou? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme conseil à Tipeee?
Ça fascine Adrien, ça.
Ça me fascine, ouais. Parce que je suis.
Est-ce qu'il paraît Denis Médic? Il me dit qu'il a appelé Guinoves aussi pour avoir des conseils.
On va se fâcher avec tout le monde cette année.
Tu me diras, il a du temps, Guinoves, pour répondre.
Et donc, Denis aussi,
Denis, Denis, le soir, il est tranquille. S'il veut appeler Denis, il est libre.
Seb, ça t'inquiète pas, cet aspect-là, cette personnalité un peu dure?
Non, pas du tout. Et il en faut, il faut être comme ça. Parce que, avec des joueurs, il faut être comme ça. Mais je pense qu'il va très bien, il va très bien gérer la chèvre et le fou. Il va être dur quand il le faudra. Il va être dur quand il le faudra et il va être humain dans les moments.
Le bâton et la carotte, quoi.
Autant il y a certains joueurs que je vois pas du tout entraîneurs et qui le disent eux-mêmes, ne seront jamais entraîneurs parce qu'ils seront trop durs avec les joueurs. Mais lui, il aura ce truc d'être sur l'équilibre.
Qu'est-ce que c'est? Tu le connais, Tony Parker?
Je le connais pas, mais je l'ai
suivi. Alors.
En plus, il va arriver avec le bagage qu'il a, les joueurs, forcément, ils vont l'écouter. Non, il va très bien.
Attention, je sais rien du tout d'avoir réduit.
Il n'en veut pas, Vincent, il est gentil.
Je plaisante.
On reparlera, c'est que je ne veux pas désarmer comme ça.
Ce que je veux te dire.
De Pop
je sais pas si vous vous rappelez de Zidane, sa première séance d'entraînement quand il arrive dans le vestiaire avec le Real Madrid, tout le monde se lève,
il
sert
la main.
Quand il débarque dans le vestiaire NBA, tout le monde va se lever pour dire bonjour monsieur Tipeee Parker.
Possible, hein.
Mais attention,
si c'est au sport,
ma foi.
Après, Zidane a été plus fort en foot que Tipeee en basket.
Zidane était plus fort au foot que Tipeee en basket.
Zidane a été meilleur joueur du monde. Tipeee n'a jamais été le meilleur joueur du monde.
Oui, mais quand même, l'autre, c'est quand même le NBA, c'est une légende. Quand
oui,
même.
Oui, c'est la même icône pour le basket que Zizou l'est pour le foot.
Sûr.
Mais dans leur sport, Zidane est allé encore plus haut.
Bah oui, Eric pourrait se lever maintenant pour dire bonjour à Tipeee.
De quoi? Le problème, il faut qu'on le lève quand même, la canne commence à haut.
Alors là, il démarre une aventure de coach de l'ASVEL avec un gros budget, une grosse équipe. Donc,
comme
déjà,
il est président,
voir,
hein. Il s'est nommé lui-même.
Oui, alors ça c'est incroyable.
C'est fou. Il s'est fait son propre contrat.
Et peut-être il se virera un jour.
Et après dans les interviews, il dit non, mais il y a un board quand même. Hein. Il y a quelques personnes qui ont validé. Dans un instant, là, tout de suite, dans le Super Moscato Show, une grande championne, une amie du Moscato Show, Clarisse Agbegnénou.
C'est jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show dans une demi-heure, un débat comme on les aime. Marquinhos ou Mbappé, qui a le plus marqué l'histoire du PSG? Alors, c'était en début de saison, donc avant le deuxième titre de champion d'Europe. Et puis le journal moyen, on n'oublie pas le journal moyen.
Avec quelques petits problèmes de calcul pour Gilbert, en pleine Ligue des Champions pour calculer possible, un classement, Gilbert, un peu largué.
Mais d'abord, on va passer un très très bon moment avec notre grande championne de judo, Clarisse Agbegnénou.
RMC, le Super Moscato Show.
La France a vibré au rythme des victoires.
Ouais, on a gagné. fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire.
Des performances.
C'est là où ils ont été au performant.
Paris était au rendez-vous.
La bonne humeur, l'enthousiasme, la joie de vivre qui se dégage.
En France, chez nous, oui.
Que retenir de ce grand frisson?
Elle est médaille de bronze, Clarissa Gvenelou, après ce hippon.
Des exploits
que on a tendance à reproduire.
Trop nombreux pour tous les citer.
Beaucoup de choses et puis de retranscrire peut-être.
Tout l'été, des spectateurs émerveillés.
Des images, des émotions qu'on n'aurait pas pu avoir avant, en instantané.
Une image qui restera le symbole de ces Jeux de Paris.
Et c'est une formidable aventure sportive, mais aussi et avant tout une aventure humaine.
Ouais, quoi, Clarissa Bédianou, bien sûr.
Abagnénou.
Agbédianou.
Breaking news. Clarissa Agbédianou, triple championne olympique de judo, sextuple championne du monde et quintuple championne d'Europe. Clarisse, ça, j'ai vu rigoler pendant les matchs. Ça te gêne pas qu'on se moque du sélectionneur de l'équipe de France de foot?
Non, mais c'est bien ici. Ah, c'est toujours toi, la rigolade. C'est bien. On se taquine un peu. C'est rien.
Alors, c'est la journée olympique aujourd'hui et donc on en profite pour recevoir une des plus grandes championnes de l'équipe de France olympique, engagée dans un nouveau défi encore plus difficile que Paris 2024, puisque eh bien tu es désormais maman de deux enfants. Dakota est née au mois de mars.
C'est ça, exactement. Mon petit bout de 3 mois qui est vraiment adorable. Et je dis pas ça parce que c'est mon fils, mais parce que c'est vrai.
C'est plus fort, quoi.
J'ai pas dit ça encore, je sais pas. Mais il est vraiment adorable.
Naissance au mois de mars, t'en es où de ta reprise, Clarisse?
Alors, j'ai très bien repris et je pars ce soir au Japon pour un stage. Donc, franchement, je suis contente. J'ai commencé un premier stage il y a un mois aussi en Espagne avec l'équipe de France. Tout s'est très bien passé. Je m'entraîne bien, je me sens bien. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant.
Physiquement, si tu te mettais une jauge, tu dirais que tu as combien de pourcents?
Après, je suis dure avec moi-même, mais je dirais quand même, allez, je mets un peu tous les curseurs. J'irai pas mal de 70%.
T'as repris beaucoup plus tôt qu'avec Athéna. 12 jours après, t'étais déjà à l'INSEP pour la réathlétisation.
C'est ça, j'étais déjà à l'INSEP pour la réathlétisation 12 jours après. Je me sentis bien, vraiment directement. J'ai eu un bel accouchement, rapide, sans problème, sans péril encore. Donc tout s'est très bien passé. Et en fait, je me faisais chier à la maison.
Tout simplement. Alors sans péridurale, c'est un choix ou c'était les circonstances?
Non, c'est un choix.
Alors,
c'est un choix et en plus les circonstances ont fait que c'était rapide, donc c'est génial.
Faut avoir un mental de championne quand même, parce que la péridurale, ça soulage de douleurs quand même violentes.
Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Parce que déjà j'ai de la chance avec Athéna où j'ai réussi à tenir sans et ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problématique derrière et c'est vrai que je suis quelqu'un qui prend très très peu de médicaments. J'aime bien pouvoir ressentir les choses, faire un peu à ma façon. Par contre, je suis pas contre. Si ça devient dangereux pour moi ou pour l'enfant, j'en suis pas contre. Mais si j'arrive à tenir et trouver une solution autre, donc j'ai fait de la sophrologie, je me suis entraînée comme en compétition. Pour moi, c'était pareil, comme une compète. Mais franchement, c'est très très bien passé cette compète.
Alors Clarisse, t'as été championne du monde en 2023, moins d'un an après la naissance de ta fille Athéna. Cette fois-ci, quel est l'objectif?
Alors l'objectif, j'espère en tout cas être sélectionnée pour faire une compétition fin août. Donc okay. Donc j'attends les sélections. C'est un grand slam. Okay. Donc j'attends les sélections, mais je pense qu'on saura très rapidement d'ici une ou deux semaines. Et après, j'espère que je pourrai être sélectionnée aux championnats du monde qui sont en octobre.
Alors les championnats du monde, c'est en octobre en Azerbaïdjan. Donc tu penses faire une seule compète avant?
Oui, faut pas trop se cramer, faut que je m'entraîne encore, 70%, il y a une jauge encore qui est longue, donc il faut que je m'entraîne, et une compète ça sera bien, et puis voilà, de toute façon pour les championnats du monde avec Athéna, officiellement j'ai fait qu'une compète aussi avant, officieux j'en ai fait une avant où je me suis blessée, donc une ça sera bien, comme ça je serai préparée pour.
Là t'as repris le judo? Tu prends les sparring, tu fais.
Je suis allée déjà en stage équipe de France en Espagne. J'ai repris le judo depuis un petit moment. Et là, je pars au Japon pour 17 jours de stage judo.
Et là, tu emmènes la famille, Clarisse, en stage?
Alors, j'emmène le petit, mais du coup, la grande, elle restera avec son papa parce que c'est la fin d'année d'école et j'ai pas envie de la changer. Déjà qu'elle.
Puis elle en avance, elle a le bac.
Voilà, elle a le brevet.
C'est
une
journée, quoi. C'est pas possible.
Non, je la laisse un peu dans son petit cocon. Ça va être dur pour moi, mais bon.
Physiquement, même, je sais pas. Dans la tête, par rapport à la première grossesse, ça te sert d'expérience pour être mieux, plus rapidement, ou c'est un peu plus galère parce que t'as un peu plus d'âge, parce que t'es un peu plus fatigué peut-être?
Je pensais ça. Et finalement, je me sens encore mieux que la grossesse d'Athéna. Je ne sais pas ce que ça va donner vos compétitions parce qu'il y a plein de facteurs.
Dans la phase de reprise.
Mais la phase de reprise, déjà, j'ai commencé avant de travailler sur mon périnée, donc avant la grossesse. J'ai continué directement après. Donc finalement, j'ai perdu, bien évidemment, parce qu'il y a quand même un chamboulement du corps et des hormones. Mais j'ai vite récupéré. En fait, tout ce qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe, même cette réathlétisation, toutes les choses qui sont mises autour de moi, me sert aujourd'hui. Et je peux dire que je me sens vraiment en forme. Et si fallait faire, à part, voilà, on sait qu'avec le judo il y a des catégories de poids, oui. À part la catégorie de poids, je pourrais faire une compétition d'ici la fin du mois.
J'ai l'impression que t'as mis à l'amende quelques personnes sur ta reprise d'entraînement.
T'en as couché quelques-uns.
Clarisse, à quel moment dans ta prépa tu donnes les consignes de dire ça bon, maintenant ça y est, je suis plus une maman récente, on attaque comme une vraie athlète, on prend plus en compte l'accouchement, ça y est, c'est bon, c'est toi qui donnes le feu vert ou c'est ton équipe qui sait gérer ces moments-là et qui dit bon maintenant on passe on a de nouveau affaire à l'athlète et on avance comme ça.
Alors ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe on travaille tous ensemble, donc il n'y a pas quelqu'un qui donne une directive ou une autre, j'ai tout autour de moi et en fait on se parle. Et il y a des moments où moi je me suis poussée avant en leur disant je me sens bien, est-ce qu'on peut accélérer sur ci ou sur ça, par contre vous êtes là pour me dire ah là je te sens pas bien, vous avez aussi une vision, donc je pense qu'on a été tous, on s'est tous écoutés, on s'est tous entendus et finalement oui j'ai repris beaucoup plus tôt que la norme, mais je me suis sentie tellement bien et ils ont dit t'as bien fait de nous dire que tu te sentais bien à ce moment-là, qu'on t'est poussé ou voilà, donc on n'a pas eu trop à me freiner et en même temps j'ai été très à l'écoute de mon corps et je vous dis le petit est adorable, donc j'arrive à dormir un peu, donc forcément ça aide.
Alors Clarisse, t'as évoqué rapidement un aspect que je trouve très intéressant et qui peut être un peu gênant pour un champion ou une championne, t'as dit c'était quand même pas tout à fait pareil après la grossesse d'Athéna. Pourtant, t'es revenu au plus haut niveau. T'as été championne du monde. T'as fait 2 médailles olympiques, une en or, une en bronze. Mais qu'est-ce que tu n'avais plus dans ton bagage? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as perdu?
Alors, je pense que pour la grossesse d'Athéna, déjà, je me suis pas préparée autant avant. Donc j'ai fait du sport, mais voilà, très légèrement. Là, j'ai fait du sport vraiment. Je faisais des cardio encore la veille de l'accouchement, donc forcément ça aide après pour la reprise. Et oui, je faisais des bons cardio. Ensuite, je pense que j'ai une meilleure écoute et entente de moi. Enfin, forcément, quand on a une première grossesse, on essaye de jauger. Donc au début, j'avais peur. J'ai vite arrêté le judo. Mmh. Là, j'ai fait du judo jusqu'au mois de décembre. Même début janvier, donc janvier, février, mars, c'est très rapide. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien, pareil, jusqu'à 6 mois de grossesse, mais vraiment des combats. Donc
la première fois, est-ce que tu as eu l'impression de perdre en explosivité, par exemple,
il manquait beaucoup de force. Il me manquait énormément de force. J'avais perdu énormément de muscles.
Tu penses que tu vas tout récupérer?
Là, je pense que je suis pas mal. Je suis pas mal parce que comme je me suis entraînée mieux...
70%.
70%. 70%. Mais je suis pas mal parce que comme j'ai travaillé plus au niveau de ma musculature, j'ai moins perdu et j'ai moins laissé le temps. Là, et Athéna, elle est née en juin, donc il y avait juillet, août où je me suis laissée un peu pomper l'op, me reposer, tout ça. Donc forcément, toute une grossesse où on perd beaucoup de choses, plus les 2 mois après, si on se laisse un peu aller, ça peut être compliqué. Donc le retour, j'ai eu un gros temps de retour. Et là, pour le coup, je me suis entraînée jusqu'au bout. J'ai repris tout de suite, donc j'ai eu moins de temps. Même si ça chamboule un peu, je me sens bien.
La confiance de la championne, hein, quand tu parles, là, il n'y a pas la place au doute.
J'ai l'impression qu'on parle à Clarisse Agbenihou qui va être championne du monde.
Oui. En octobre. En plus, là, on a la qualification, c'est la journée olympique, il y a la qualification des Jeux qui a ouvert là au Grand Slam de Mongolie. Oui, donc moi, je suis prête. Hein. Je suis prête et je vais commencer ma qualif aussi.
Un palmarès XXL qu'on a rappelé. Ceci étant, tu reviens d'une grosse coupure. La concurrence française, elle est là, avec Manon Dekéter.
Bien sûr.
Aujourd'hui, est-ce que tu estimes que tu as quand même droit à des égards au vu de ta carrière ou tu repars sur un pied d'égalité avec Manon?
Pour moi, je repars sur un pied d'égalité. Donc,
la meilleure ira au championnat du monde, la meilleure ira aux Jeux Olympiques.
C'est exactement. C'est une très bonne athlète qui a toutes ses chances depuis un bon moment. C'est quelqu'un qui a tout et finalement ça va faire une très belle compétition et moi j'ai dit que la concurrence en met loin, donc je suis bien contente d'avoir cette concurrence.
Est-ce qu'il va falloir une confrontation entre vous deux ou est-ce que c'est les résultats face aux meilleurs internationaux?
Je suis prête à tout. Je sais qu'on va se retrouver aussi pendant ces compétitions et c'est ce qui est bien, donc moi je suis pour la rencontrer. Je suis pour, voilà, la concurrence est bonne. C'est une athlète qui est intelligente et qui fait elle est forte aussi. dit, donc ça va être la guerre et que la meilleure gagne.
On peut organiser ça, un combat.
Un combat
maintenant. Non, avec vous, ça peut être bien. Par contre, vous rentrez dans la.
Vas-y, Stephen. Je propose Stephen en premier.
Moi, Eric, dis-moi quoi en premier, Eric. Ça te va.
Non, merci.
Clarisse, je te donne un nom et tu me dis ce que ça t'évoque. Ok. Si je te dis Haruka Kaju.
Oui. Ça m'évoque qu'en fait, elle me cherche et que.
On va me trouver.
C'est pas vrai, on va y aller tranquille. Non, mais vous savez qu'au championnat du monde, l'année dernière, elle a dit qu'elle voulait me rencontrer.
Voilà.
Donc, j'espère que je vais faire le championnat du monde pour qu'on puisse se rencontrer. Et puis, c'est celle qui a battu tout le monde. Je pense que ça fait un an ou même un an et demi qu'elle est invaincue. Bah, là, il y a une confrontation à faire. Et moi, j'adore les challenges.
Alors, c'est une Japonaise qui est championne du monde, mais ce qui est très particulier, c'est qu'en gros, il y a un an et demi, un peu plus, on la connaissait pas, et même dans le milieu du judo, parce que bon, la profondeur au Japon, elle est énorme, donc on connaît pas forcément toutes les filles et tous les garçons. Il se trouve que depuis un an et demi, elle a tout gagné, jusqu'à être championne du monde.
C'est ça, mais c'est une athlète qui est forte depuis un certain moment. Quand je vais en stage là-bas, elle me prenait tout le temps, elle était horrible.
Ah ouais.
Horrible. En fait, qu'ils ont tellement d'athlètes qui sont bons que forcément, ça noie un petit peu. Mais finalement, celle qui est quatrième, cinquième, elle peut être championne du monde parce qu'elles sont extra, quoi. Donc, ça me choque pas. Mais en tout cas, il faut que j'arrête son règne.
Est-ce que tu travailles ton sol, justement, parce qu'elle est spécialiste du sol?
Je travaille mon sol. Je fais du JJB au moins une fois ou deux fois par semaine. Donc, je travaille mon sol. Mais ça va se passer debout, elle.
Pas raffolé, hein.
Ça va se passer debout.
Il y a un rendez-vous, là.
Non, mais il faut lui mettre une grosse boîte, un gros hippon.
C'est ça le truc qui est aussi intéressant d'un point de vue tactique, purement sportif, c'est que toi, tu gagnes tes combats debout. Tu fais tomber, ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas de sol, mais en général, tu n'en as pas besoin. Elle attire ses adversaires au sol et elle gagne au sol.
C'est ça.
Ça veut dire qu'il va falloir la battre debout.
Bon, je la battrai.
Mais ça serait mieux encore, ça serait mieux de la battre au sol.
Moi, je ferai. De toute façon, je vais lui laisser aucune opportunité. Oui.
Cette détermination, c'est
régal. Il faut. Non, mais si je crois pas en moi, qui va croire en moi?
Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes, Clarisse, très franchement?
Il y a des moments où je doute.
Tu peux nous donner
un
exemple?
Bah, je sais pas, quand j'étais enceinte et que je me disais, bon, est-ce que je vais réussir à reprendre? Est-ce que j'aurai l'envie? Est-ce que j'aurai la motivation? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que mon enfant sera en bonne santé? On a des moments de doute comme ça qu'on maîtrise pas. En fait, quand on maîtrise pas, c'est super difficile.
Mais par contre, t'as pas de doute en combat sur un tapis face à une adversaire?
Alors, j'ai pas de doute quand je mets les choses en place. Okay. Et du coup, j'ai mis les choses en place depuis ces derniers mois, ces derniers jours. Et là, je me sens bien. Et ça fait que j'ai pas de doute. Mais si je mettais pas les choses en place, bah forcément, je me dirais, bon, c'est un peu compliqué. Là, je suis en train de me mentir à moi-même. Et ça, non.
Tu as tout vécu. Est-ce que tu aimes toujours autant le judo? C'est-à-dire le matin, te lever à peut-être 6h du matin en disant je vais passer une journée encore à souffrir, à faire du judo. Est-ce que tu aimes toujours autant ton sport, avoir des combats, etc.?
Eh bien, j'aime toujours autant parce que je pense que les faits de faire ces pauses aussi, maternité, me font énormément de bien. Je pense à autre chose, je fais autre chose, je travaille différemment et ça me permet de me dire quand je reviens, bah, je mets les curseurs à 100% au judo et puis là, à chaque fois, je me dis je fais 2 ans. 2 ans, ça passe vite, c'est rien. Je ne fais pas 4 ans d'Olympiade, j'en fais 2. Donc 2 ans, je peux me donner à fond et je n'ai pas le moment à me dire, oh là, je suis saturée.
Il n'y a pas un truc que tu n'aimes pas parfois? Tu dis, non, ça, je n'ai pas envie de le faire.
Bah,
cardio,
si.
Ça, c'est lourd. Le cardio, peut-être, non?
Si, parce que je sais que j'en ai besoin. Du coup, j'y vais. Non, il y a des choses, mais pour l'instant, je sais que j'en ai besoin et que ça va m'apporter pour que je gagne.
Tu te mentalises, quoi?
Je me mentalise. Et puis, j'aime m'entraîner. C'est mon moteur au quotidien, c'est de l'énergie. Je ne m'entraîne même pas pour me dire, des fois, mon frère me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais parce que j'aime. Il me dit, mais malade. J'ai dit, j'aime juste m'entraîner pour me sentir bien et puis ça me donne ce petit coup d'énergie de la journée. Et après, des fois, je dis, mais je m'entraîne pour porter mes 2 enfants dans les bras comme ça, ou porter la poussette. Ça me donne de la force. La dernière fois, j'avais les 2 qui dormaient, je portais à bout de bras le sac et l'activité. Et déjà, ils me regardaient comme ça dans la rue.
Eric.
Mais du coup, tu t'es donné une limite parce que, bon, à un moment donné, on pense à la fin ou c'est ton corps qui dira stop?
Alors, non, je me suis donné une limite parce que j'ai aussi plein de choses à faire dans ma vie. Pas que le judo. Non, j'ai fait pas mal de choses déjà dans le judo. Je pense qu'après les Jeux de Los Angeles, je partirai pas sur Brisbane. Enfin, je pense pas, je suis sûre que je ne referai pas 4 ans. J'aurai sûrement une autre grossesse parce que j'adore ça et puis j'ai envie d'avoir un troisième enfant. Mais je retournerai pas à Brisbane. Après, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Ça dépendra aussi des Jeux Olympiques. Si je fais un championnat du monde derrière ou 2 ans. Mais après ça, on me reverra plus. J'ai plein de choses à. Non, mais j'ai plein de choses à faire.
Tu reviendras nous voir quand même.
Il y a
des adversaires qui arrêteront de faire des cauchemars.
Ouais. Exactement, parce que quand je suis retournée en stage là en Espagne, elles avaient le sourire, elles ont dit on est trop contents de te voir, mais par contre compte.
Ouais, tu vas nous faire
chier.
Tu vas me faire mal.
Clarisse Agbenienou dans le Super Moscato Show. Merci beaucoup, Clarisse.
Merci beaucoup.
Alors, la petite japonaise, elle est très forte, mais j'aimerais pas être à sa place.
Clarisse, elle l'attend au tournant, là. Elle veut la choper.
On revient tout de suite avec le journal moyen.
Avec Gilbert Bribois, qui sera complètement largué. C'est tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 16h45, journal moyen, deuxième édition.
Deuxième édition sur RMC. Hier, en présence d'Eric, la 7e compagnie a pris possession de l'after. Il fallait établir un classement, Vincent. C'est pas facile d'établir un classement en foot. J'ai des saucisses, tout le monde est plutôt bon, un bon jeudi. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Pierre Dorian est en route vers un grand chelem. Pierrot, tu es à deux marches du grand chelem.
Bravo, Pierrot. Deux marches, c'est long encore.
C'est long, mais c'est.
Ouais, mais t'as des graines de jambes, toi. T'as des graines de jambes, tu les as les jambes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Vous écoutez.
Rappel, ça, la marche. Tu crois qu'il est beau, monsieur Pinot, Jérôme, ou qui a dit.
Je pense qu'il a un potentiel.
Ouais, il est pas mal.
Ouais, je pense qu'il a un potentiel.
Ouais, alors, comme dirait, comme dirait aujourd'hui Eric Dimeco, vous écoutez RMC, parce qu'il a un légère after.
Oh, c'est beau.
C'est le demi-champ.
C'est le demi. Ça s'entend.
Un peu, ouais. C'est le demi-champ. Journal moyen de
l'histoire. Je sais pas où j'ai mis ma langue. Au début, moi, je me suis dit, il fait l'émission, je sais pas comment.
Générique, Eric.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
On attaque avec l'after, jingle after.
Le Big Bang, c'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de, la Terre.
Quoi. Bien sûr,
c'est ça, la
l'after, nos amis de l'after qui se disent souvent, Vincent, l'émission la plus intelligente, la plus pertinente des RMC, la plus pertinente du PAF, l'émission qui connaît le foot sur le bout des doigts. Ils ont frappé très fort hier et heureusement qu'un membre du Moscato Show était là. Vincent, le Moscato Show, soi-disant une émission bas du front. Heureusement qu'un membre du Moscato Show, Eric Dimeco, était bien présent. Début d'after.
Et pourtant, n'oublie jamais que j'ai divisé mon cul par deux.
Et pourtant, tu as baissé de niveau, c'est vrai. écoutez bien ça, c'est incroyable. Début d'after, c'est chaud. L'OM perd 3-0 face à Liverpool au Stade Vélodrome. Marseille est 19e au classement. Oula, et la question mathématique, Vincent. Marseille est 19e. Si la semaine prochaine, tu es 25e, tu es éliminé. Il faudrait donc pour ça que 6 équipes te passent devant. C'est mathématique, comme dit Eric. Début d'after, on commence les calculs.
Avec Gilbert qui est très sûr de lui, Gilbert.
On va parler du match de ce soir.
Bah non, parce qu'il suffit que 6 équipes te passent.
Pour mercredi prochain, que tu passes avec 9 ou
6 équipes, c'est beaucoup.
De toute façon, l'OM sera satisfait d'aller jouer ce play-off.
5.
Plus.
Il faut que 5 équipes te passent devant.
Ouais, 5 ou 6. T'es sûr que c'est pas 6?
Si c'est 5, t'es 25e et t'es éliminé.
Dehors. Non, t'es pas dedans. 25e, t'es dehors.
Ouais, voilà.
Exactement.
Voilà, là, il est 23h05. Là, c'est incroyable.
Il va timidement.
J'avais pas encore revu le classement. Hein. J'étais en train de regarder le classement en disant ça.
Il est 23h05 et là c'est la 7e compagnie qui prend le pouvoir dans l'after.
Le chef Chaudard, Gilbert Chaudard, est en train de perdre pied.
Gilbert,
il perd pied. Le fil rouge sur le bouton vert.
Tu as commencé à le dire, Eric. Effectivement, c'est une très grosse déception parce que
5.
Que Liverpool.
C'est ça. Il y a 5 équipes derrière l'OM pour être avec 4. Il en faut 6 qui passent devant l'OM. Non, il en faut 6 qui passent devant. Si il y en a 5 qui te passent devant, tu es 24e.
Non, tu es 25e.
Mais non, oh là là, tiens, toi c'est 19e, tiens le 20e derrière toi, le 21e, le 22e, le 23e, le 24e, ça fait 5 équipes derrière toi. Si ces 5 là te passent devant, ben t'es toujours 24e quand même, hein, les gars.
Voilà, là on commence à commence à s'énerver.
Là, ça commence à se dessiner.
Moi je me dis, il va comprendre, mais le chef Gilbert Chaudard insiste. il faut lui expliquer longtemps au chef Chaudard.
Ouais, il comprend bien.
Alors, écoutez, à un moment, il se met le classement devant les yeux et il compte. C'est extraordinaire.
2, 3, 4, 5. Ben non, t'es 25e.
Oh là là, j'avais faim.
Bon, les gars, si l'OM, si les 5 de derrière passent devant l'OM, l'OM est obligatoirement 24e, puisque c'est les 24 qui bougent là. Les 24, toi, les mecs qui te passent devant, toi de 19e. Bon, enfin, si tu n'arrives pas à comprendre ça, Gilbert, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave.
C'est une légende tout ça.
Bon, ben, tu verras.
Non,
bon, Daniel, attends, les où
je pense qu'il a.
Moi, je sais pas qui a raison, mais Eric est plus convaincant. En tout cas.
Oui.
Voilà, Jean-Louis Tour qui est au stade.
C'est vrai Gilbert s'énerve jamais.
C'est d'une longueur incroyable.
Une légende.
Tu es avant-dernier.
Non, mais si, parce qu'il dit tu te plantes toujours sur les classements depuis 15 ans. Et Gilbert, non, c'est pas vrai, c'est une légende. Je suis très carré.
Ah ouais, d'accord.
Bon, à l'arrivée, c'est Eric, le Moscato Show, qui avait raison, forcément. Et on est sur un vrai problème, Gilbert. Et ça travaille, Eric. Une heure plus tard. Eric doit partir, il est 23h59. Eric ne s'est toujours pas remis de la séquence. Il va poser une dernière question. C'est une sorte de test cognitif qu'il va poser à Gilbert. Parce que Eric, il dit quand même qu'il y a un souci. Ouais. Écoutez ça, l'échange, c'est magnifique.
D'ailleurs, j'ai une dernière question, Gilbert. Ouais. Une course de vélo. Le deuxième se fait doubler. Ouais. Il est à quelle place, du coup?
Ah, ça dépend.
Ouh,
arrivé au sprint ou pas?
Non, mais réponds Eric.
Eh ben non, mais. Et alors? Celui qui a doublé, il est combien? Celui qui est doublé, il est combien?
S'il s'est doublé par deux gars, il est quatrième.
Mais non, mais pourquoi pas? Non, non, le deuxième se fait doubler par l'autre. Se fait doubler
par qui, une personne.
Par le troisième, et il devient quoi?
Allez, il devient quatrième.
Celui qui est doublé. Oh, con. Ah ouais. Bon, allez. Bonne nuit.
Aïe, aïe.
Salut, Eric. Allez. Non, mais le faux esprit.
C'est un blocage.
C'est un blocage.
C'est pas bon en maths.
Bah ouais.
J'ai bien la fin.
Tu doubles le deuxième, t'es deux.
Et moi,
tu doubles le troisième, j'ai troisième. Tu doubles le deuxième, t'es deuxième.
Eric a dit au con, bonne nuit. Bonne nuit pour moi.
Ah ouais, c'est juste, ça sert à rien, je vais me coucher.
Bon, ben ça, chacun ses blocages.
Ouais, ouais. La pire, il y a des fois, sans kikine, avec des trucs incroyables.
Allez, j'ai quelques petits services après-vente des Kikadi de la semaine dans ma besace qui sont arrivés comme ça. Denis Charvet, la bonne réponse, c'était Claude Leroy. Denis veut proposer le sélectionneur du Maroc qui s'appelle Walid Regragui. On est sur un fil, Denis, un fil. Tant qu'il a dit, je n'ai aucune complaisance pour Brahim Diaz. Il a manqué de rester à
notre
peuple. Hervé Renard.
Regragui.
Il fera le Regragui de Denis demain. Ça va vite.
C'est le Regragui de tard le soir, ça.
Et puis hier, alors on a allumé l'after, mais on va s'occuper de nous quand même. Vous avez vraiment abusé sur une question, le Super Moscato Show, c'est notre spécialité. Pierrot, tu le répètes régulièrement, c'est la seule émission en France qui parle de rugby tous les jours. Donc on est censé suivre un minimum de rugby. Oui. Surtout à 15 jours du tournoi, on s'intéresse un peu à l'actualité. Ouais, ouais.
Et surtout quand il a été ancien rugbyman.
Incroyable. Écoutez hier le Kikadi. Écoutez le Kikadi sur une question. C'est une question rugby. C'est votre sport. C'est votre spécialité. Bravo messieurs. Sport pratique. Dewey Lake.
Du tennis.
Éliminé. Oh.
De quoi?
Dewey Lake. Prénom Dewey, nom Lake.
Hockey sur glace.
C'est quoi? Éliminé, Pierrot.
T'as dit quoi, toi?
Hockey sur glace.
Moi, j'attends que Jean-Paul arrive. Je sais pas.
2, 1.
Ski alpin.
Éliminé. Eric, tu veux tenter quelque chose? Non, c'est fini. C'est tout simplement le capitaine du Pays de Galles pour le tournoi Destination. Il joue au rugby. Il remplace Jack Morgan qui est blessé.
Il a quand même dit hockey sur glace, Denis.
Moi, hockey sur glace.
Toi, t'as dit ça, toi.
Il a dit quoi, lui?
Génial. Il a dit ski alpin, mais avec.
Ski alpin, ouais.
Ah oui, ski alpin. Une détermination incroyable.
Quand tu dis ça.
C'est sûr de son.
Non, mais parce que si par un coup de chaise ça passe, les mecs ils pensent que tu savais. Tu vois, si tu mets des.
Ah oui, il faut toujours faire
fou. Comme si t'es sûr, comme ça, un coup de bol, on sait jamais.
Le mec va être un des héros du tournoi, peut-être.
Ah ouais, Lake.
Ouais, bah voilà.
C'est pas un appelé de dernière minute, quoi. C'est le capitaine.
Non, en fait, le capitaine Yann Morgan est blessé, ouais, donc il a été nommé pour tout le tournoi. Ça a fait l'actualité. Il fallait, ouais. Voilà. Il fallait suivre l'actualité.
Et le journal moyen.
Oui.
Bah non, c'est fini, ça continue pas. C'est le Moscato Show qui continue.
Oui, le journal moyen. Le journal moyen, ça continue. Et de retour en direct lundi, vous pouvez m'envoyer sur mon compte Twitter toutes les saucisses, hein, tous les moments d'antenne, surtout sur les.
Il y en a eu beaucoup
à la télé,
été,
hein. À la radio. N'hésitez pas, je compile tout et tout sera livré la semaine prochaine.
Allez, Marquinhos Mbappé, sur dans le 17h de RMC. C'est le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.